Vous écoutez, on lit pour vous.
La convergence intelligence artificielle travaille. Un texte de Gérard Bérubé, paru le 25 avril 2026 dans Le Devoir. Il est attendu que l'intelligence artificielle, IA, sera perturbatrice pour l'emploi et sur la main-d'œuvre et ce, très rapidement. Faut-il s'en alarmer? De projection en projection. Dans son rapport The Future of Jobs 2025, publié en janvier 2025, le Forum économique mondial indiquait que les employeurs interrogés considéraient que les travailleurs pouvaient s'attendre, d'ici à 2030, à la transformation ou à l'obsolescence de 39% de leurs compétences sous le coup de l'enracinement de l'IA. Dans un texte publié par la Banque des règlements internationaux, il est souligné que la révolution technologique qu'elle engendre expose près de 40% des emplois dans le monde. Le Fonds monétaire international, FMI, évoque pour sa part une incidence sur environ 60% des emplois dans les pays à l'économie dite avancée. On accepte également le constat que là où l'automatisation et les effets des technologies perturbatrices sur la main-d'œuvre concernaient traditionnellement les tâches répétitives, l'IA se démarque par sa capacité à toucher les emplois hautement qualifiés, à cibler davantage les travailleurs du savoir, généralement plus scolarisés. Tout n'est pourtant pas que sombre. Pour le FMI, parmi les emplois exposés, environ la moitié pourrait bénéficier de l'intégration de l'IA, qui se traduirait par un gain de productivité. Pour l'autre moitié, les applications de l'IA pourraient exécuter des tâches essentielles actuellement assurées par des êtres humains, ce qui pourrait diminuer la demande de main-d'œuvre, faire baisser les salaires et réduire les embauches. Dans les cas extrêmes, certains de ces emplois pourraient être amenés à disparaître. D'ailleurs, il ressort des projections de la firme d'analyse Oxford Economics que, selon le degré d'adoption de l'IA, 12% de tous les emplois ou tâches seront pleinement automatisés d'ici 2032. Mais on s'empresse d'ajouter que l'IA et les changements qu'elle amène ne seront pas sans également offrir des occasions de reclassement et de création de nouveaux métiers dont on ignore l'existence. Exposition québécoise. Le Québec ne se démarque pas. L'Institut de la statistique du Québec, ISQ, disait au début de février qu'en 2024, environ 59% de la main-d'œuvre au Québec occupait un emploi présentant une haute exposition à l'IA. On parle de quelque 2,7 millions de personnes. Et puisque cette avancée technologique s'étend aux tâches cognitives et non répétitives, on doit s'attendre à ce que les personnes hautement qualifiées, celles qui détiennent une formation post-secondaire, en particulier universitaire, soient plus à risque. L'ISQ estimait qu'environ 86% des emplois occupés par des personnes ayant une formation universitaire se trouvaient en 2024 dans une profession potentiellement hautement exposée, alors que cette exposition était plutôt le fait d'environ le tiers des personnes ayant un diplôme secondaire ou moins. En allant plus loin, l'ISQ a observé que ce degré d'exposition élevé pouvait concerner la quasi-totalité des professions où le télétravail est possible. Du moins, dans la mesure où ces professions exigent fréquemment des formations post-secondaires. Pour ce qui est des emplois où le télétravail est impossible, environ 69% sont faiblement exposés. Poursuivant ce raisonnement et s'inspirant de la composition industrielle et professionnelle selon le genre, l'ISQ fait ressortir que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être exposées à l'IA dans leur emploi, à 71% contre 49%, ces derniers étant plus concentrés dans des professions de production. Mais là aussi, tout n'est pas que négatif. Le degré plus élevé de sensibilité se vérifiant autant dans les cas de forte complémentarité, soit dans des professions où l'on peut tirer profit de cette technologie, 35% pour les femmes contre 26% pour les hommes, que dans ceux de faible complémentarité, où les tâches pourraient être transformées ou effectuées par cette technologie, 36% contre 23%. La fracture des compétences. Nous sommes donc encore loin de l'alarmisme, voire de l'hécatombe. Et dans ce qui semble la revanche du terrain sur le numérique, l'agence spécialisée en emploi Randstad Canada propose l'illustration suivante. La demande explose dans les métiers concrets. Le secteur de la construction, par exemple, devra pourvoir 172 000 postes d'ici 2027, alors que 13% de sa main-d'œuvre qualifiée part à la retraite. Dans le commerce et les services, la technologie automatise, mais c'est l'humain qui crée la fidélisation. Expérience client, gestion d'équipe, capacité relationnelle deviennent des compétences critiques. Dans son analyse prospective pour 2026, publiée en décembre, l'agence retenait que la majorité des travailleurs, 68%, étaient prêts à adopter l'IA. Nous entrons dans l'ère de la convergence de l'humain avec la technologie. La véritable limite de la transformation numérique n'est pas technologique, mais humaine. Randstad parle d'une nouvelle fracture, celle des compétences. En 2026, la limite à la croissance de l'IA ne sera ni l'outil, ni l'investissement, mais la disponibilité de talents capables d'allier leur jugement stratégique à la puissance de l'IA et d'en orchestrer l'adoption à grande échelle. Intéressant. C'était La convergence intelligence artificielle travail, un texte de Gérard Bérubé, paru le 25 avril 2026 dans Le Devoir.
Des invités du PSTQ pourraient devoir quitter le Québec. Un texte de Lisa-Marie Gervais, paru le 21 avril 2026 dans Le Devoir. Sans nouvelles de leur dossier depuis plus de 6 mois, des heureux élus du Programme de sélection des travailleurs qualifiés, PSTQ, craignent de devoir retourner dans leur pays alors que leur permis de travail est sur le point d'expirer. À peine 110 certificats de sélection du Québec, CSQ, ont été délivrés, alors que plus de 10 000 invitations ont été envoyées depuis juillet 2025, selon les données du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MIFI. En attente de son CSQ depuis bientôt 7 mois, Erwan Sauvage angoisse à l'idée de voir approcher dangereusement la date d'expiration de son permis de travail, post-diplôme, un permis ouvert. Le 4 mai 2026, je perds mon emploi et je dispose de 90 jours pour quitter le territoire canadien, ma copine, mes amis, mon chat, ma vie, explique-t-il. Au Québec depuis 5 ans, ce Français d'origine a d'abord terminé une maîtrise à Polytechnique Montréal en génie biomédical avant de décrocher un poste à l'hôpital du Sacré-Cœur. voyant que le programme de l'expérience québécoise, PEQ, était suspendu, il s'était tourné vers le PSTQ et a été sélectionné en août 2025 lors des premières rondes d'invitation du MIFI. Près de 7 mois plus tard, il a déposé son dossier complet le 1er octobre. Il ne comprend pas pourquoi, si près du but, il se pourrait que la résidence permanente lui échappe. Comment se fait-il que même les chanceux qui, comme moi, ont été acceptés dans le PSTQ, se voient maintenant dans l'obligation d'envisager sérieusement de tout abandonner en raison de délais de traitement trop longs? Demande le jeune homme, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en proie à un grand stress. Erwan Sauvage n'est pas le seul à craindre de devoir partir en raison des délais d'octroi du CSQ. Thibault Deilly, aussi diplômé de Polytechnique Montréal, se dit forcé de quitter le territoire d'ici juin prochain à cause de délais de traitement bureaucratique. Après avoir été invité au PSTQ, cet enseignant au Collège Hansik et entraîneur en athlétisme dans plusieurs clubs, a déposé son dossier le 10 septembre dernier. Depuis, c'est le silence radio du MIFI. J'ai l'impression qu'on nous a donné un faux espoir, dit-il, en soulignant l'absurde de la situation. Finalement, le temps de traitement est si long que même si on a été invité, ça ne nous garantit en rien de pouvoir rester sur le territoire, parce que, justement, nos permis arrivent à expiration. Le permis de travail post-diplôme de M. Deilly a déjà expiré. Comme il est dans l'attente d'une demande de prolongation de ce permis faite auprès d'Immigration Canada, il peut rester sur le territoire. Mais cette demande sera vraisemblablement refusée, justement parce que, pour prolonger son permis de travail, qui est de type ouvert, ça lui prend un CSQ qu'il n'a pas encore. Les personnes ayant un permis de travail fermé peuvent, quant à elles, demander une prolongation, en vertu de nouvelles règles d'Ottawa. Thibault Deilly dit ne pas comprendre pourquoi on priverait la société québécoise d'éléments qui sont déjà bien intégrés, depuis 5 ans dans son cas. « Moi, j'ai fait tout mon possible pour essayer de rester et de trouver et de faire les démarches. Mais malheureusement, la situation nous met des bâtons dans les roues, » dit-il. Des délais plus longs. Yves Martineau, coprésident de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, observe que le délai de traitement dépasse actuellement les 6 mois pour bon nombre de candidats invités à postuler au PSTQ, soit des délais qui sont en train de dépasser ceux des anciens programmes du Québec menant à la résidence permanente, notamment le Programme régulier des travailleurs qualifiés, PRTQ, et le PEQ. La norme à laquelle on a été habitué pendant de très nombreuses années, je dirais même des décennies, c'était à l'intérieur d'un délai de 6 mois. Le MIFI s'engageait d'ailleurs à traiter dans les 6 mois le CSQ, engagement qui a pris fin en 2024. Là, on est clairement au-dessus et ça entraîne des conséquences assez graves pour les travailleurs qui ont besoin d'un CSQ pour renouveler et sur les entreprises qui ont besoin de ces travailleurs, constate Maître Martineau. Erwan Sauvage dit avoir tout tenté pour avoir de l'information sur l'avancement de son dossier. Notre appel au ministère fut décevant, laisse-t-il tomber. La personne responsable a été incapable de lui confirmer que son dossier était complet et lui aurait indiqué qu'aucun délai de traitement ne pouvait être communiqué. Monsieur Sauvage a déposé une plainte, comme on le lui a d'ailleurs suggéré. Un goulot d'étranglement. À la mi-février 2026, Le Devoir révélait que moins de 5 CSQ avaient été délivrés dans le cadre du PSTQ. Un mois plus tard, à la mi-mars, c'était 39. D'après les explications du MIFI, on comprend qu'il y a un goulot d'étranglement, puisqu'il met aussi ses efforts à finaliser ceux du PEQ, du PRTQ et des programmes pilotes. Sans vouloir communiquer de délai moyen de délivrance d'un CSQ, le ministère affirme toutefois travailler activement à renforcer sa capacité de traitement des dossiers déposés dans le cadre du PSTQ. Ces derniers sont traités selon le principe du premier arrivé, premier servi, à partir de la date du dépôt du dossier complet. Le ministère se dit conscient que des personnes pourraient voir leur permis temporaire expirer pendant le traitement de leur CSQ. Il avait d'ailleurs demandé à son homologue fédéral de prolonger les permis de travail, qu'ils soient ouverts ou fermés, pour les candidats ayant officiellement déposé leur dossier dans le cadre du PSTQ. Ottawa n'aurait acquiescé que pour les détenteurs de permis fermés. Le MIFI dit analyser différentes options afin d'identifier des solutions. C'était des invités du PSTQ pourraient devoir quitter le Québec. Un texte de Lisa-Marie Gervais, paru le 21 avril 2026 dans Le Devoir.
Nouveau guide de soins personnels aux personnes tétraplégiques et paraplégiques. Un texte de Nathalie Michaud, directrice générale adjointe, paru dans le numéro 169 printemps 2026 du magazine Paraquad. Dans le numéro consacré à l'approche aidance paru au printemps 2025, nous vous informions du projet pilote que nous avons mené sur le répit en 2024-2025 à la suite d'un financement obtenu auprès du Chantier d'économie sociale et de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Un des constats faits à la suite des multiples entrevues que nous avons menées auprès de nos membres et de leurs proches aidants était la très grande réticence face à la qualité des soins offerts par le personnel des ressources de répit en ce qui a trait aux spécificités des soins qui doivent être prodigués aux personnes lésées médulaires. Parce que nous entendons trop souvent des témoignages de soins personnels mal prodigués, donnant lieu à des très fâcheuses conséquences, dont le développement de plaies de pression, nous savions pertinemment que ces craintes n'étaient pas sans fondement et qu'elles constituaient un enjeu important. Un guide destiné aux personnes qui offrent de l'aide et des soins. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de travailler à l'élaboration d'un guide s'adressant spécifiquement aux personnes qui offrent de l'aide ou donnent des soins personnels à domicile dans le cadre d'un répit ou dans un autre contexte de soins, qu'elles soient préposées aux bénéficiaires ou auxiliaires familiales. L'objectif est de prévenir les complications en offrant des notions et des outils qui permettent d'offrir la meilleure qualité de soins possible aux personnes lésées médulaires. Nous avons conçu le contenu du guide avec Nathalie Chandonnet, infirmière auxiliaire et formatrice à la FAPAQE, formation adéquation des préposés au AVQ du Québec, dans les établissements de santé et de services sociaux à domicile, un programme de formation exclusif au Québec pour les préposés d'aide à domicile, des EESAD, établissements de santé et de services sociaux à domicile, ainsi qu'avec Marie-Christine Jobin-Chaillé, ergothérapeute au CIUS de l'Abitibi-Témiscamingue. Marie-Christine est une précieuse collaboratrice de Mémo Québec depuis plusieurs années, motivée par un profond intérêt pour la cause des personnes lésées médulaires et par le souci d'améliorer les soins qui leur sont offerts dans le réseau de la santé. Illustré en 8 chapitres, visuellement inspiré du guide « Vivre avec une lésion médulaire », le guide « Soins personnels aux personnes tétraplégiques et paraplégiques » est quant à lui divisé en 8 chapitres portant sur des thèmes comme l'intégrité de la peau, l'élimination vésicale et intestinale, les complications, les équipements spécialisés, l'environnement et plus encore. Le tout dans un document illustré d'un peu plus de 50 pages. En filigrane du contenu technique et didactique, le message que nous avons voulu transmettre est que les personnes lésées médulaires sont, dans la grande majorité des cas, les véritables expertes de leurs conditions. La meilleure position à prendre pour toute personne offrant des soins consiste à écouter attentivement et à prendre en considération cette expertise afin d'assurer des interventions adaptées et respectueuses. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que nous ayons accordé une grande importance au chapitre consacré à la prévention des plaies de pression. Nous sommes ravis de vous annoncer que Michel Cullen Médical a accepté de financer l'impression de notre guide en quantité suffisante pour nous permettre de le distribuer gratuitement aux personnes qui en auront besoin. Nous remercions chaleureusement notre donateur pour sa générosité. Une version numérique sera également accessible sur notre site Web. Lorsque vous lirez ces lignes, nous espérons que le guide sera déjà disponible et largement diffusé. C'était « Nouveau guide de soins personnels aux personnes tétraplégiques et paraplégiques », un texte de Nathalie Michaud, directrice générale adjointe, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
La mort d'un migrant à Montréal aurait pu être évitée, selon le milieu communautaire. Un texte de Erika Morris, paru le 8 avril 2026 sur nouveau.info. Une travailleuse sociale montréalaise raconte avoir tenté d'aider un migrant sans papier de 42 ans plusieurs semaines avant son décès dans la rue, dans le quartier Parc Extension. Amina Saman travaille avec plusieurs organismes communautaires qui offrent du soutien et des services aux personnes sans-abri du secteur. Elle a expliqué qu'elle connaissait Manjit Singh et qu'elle lui avait proposé de l'aide à renouveler son statut de réfugié et son permis de travail, ainsi qu'à trouver un logement convenable au début du mois de janvier. Il a été retrouvé inanimé dans la rue peu après et son décès a été constaté à l'hôpital le 16 janvier. Deux personnes itinérantes mortes à Montréal. La mairesse, en larmes, lance un cri du cœur. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, était visiblement ébranlée jeudi après le décès de deux personnes itinérantes. Madame Saman a dit avoir été sous le choc en apprenant la nouvelle par des collègues. Je me suis dit « Comment est-ce possible? Je l'ai vu la semaine dernière », a-t-elle raconté. « J'étais sans voix. Je ne sais pas quoi dire. J'aurais pu le sauver. » Une veillée en son honneur. Madame Saman a évoqué la mort de M. Singh alors que des membres de la communauté se préparaient à organiser une veillée en son honneur mardi soir. Cet événement a lieu une semaine après l'annonce par le Bureau du coroner du Québec d'une nouvelle enquête sur l'augmentation des décès des personnes sans-abri à Montréal. M. Singh a été incinéré à Montréal la semaine dernière, 4 mois après son décès, et Mme Saman poursuit ses démarches afin de rapatrier ses cendres en Inde. Les papiers de M. Singh indiquent qu'il est arrivé au Canada en provenance d'Inde en 2018, en tant que demandeur d'asile, mais Mme Saman a expliqué qu'il a eu du mal à trouver du travail. Il a précisé qu'il est resté en situation irrégulière après l'expiration de sa carte brune et de son permis de travail en 2022. Elle est en contact avec la famille de M. Singh notamment sa femme et ses deux enfants, qu'il espérait pouvoir faire venir au Canada. Madame Saman a indiqué que la famille était anéantie et a eu des difficultés à retrouver son corps et à le rapatrier pour l'inhumation en raison de la barrière de la langue et des contraintes financières. Elle a ajouté que la famille souhaite obtenir des réponses. Bien que l'enquête menée par Stéphanie Gamache porte sur le décès de 5 personnes, le bureau du coroner a indiqué qu'elle pouvait élargir son enquête à d'autres cas, les statistiques révélant une forte augmentation du nombre de décès ces dernières années dans la province. Alors que seuls 19 décès de personnes sans abri ont été recensés au Québec en 2020, le bureau du coroner précise que ce nombre est passé à 21 en 2021, 38 en 2022, 88 en 2023 et 123 en 2024. Le bureau du coroner a ajouté qu'il ne disposait pas encore de données complètes pour 2025. Amy Darwish, coordonnatrice d'un organisme communautaire d'aide au logement du quartier, a expliqué que M. Singh avait été expulsé d'un logement exigu qu'il partageait avec plusieurs autres personnes à la suite d'une dispute avec un colocataire. Il s'est retrouvé à la rue, exposé au froid. Madame Darwish a souligné qu'il n'y avait ni refuge d'urgence ni halte chaleur dans le quartier, ce qui aurait pu sauver la vie de M. Singh. Cette mort aurait pu être totalement évitée. Il n'aurait pas dû mourir ainsi. Et je crois que cela met en lumière la nécessité de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus, a-t-elle déclaré. Madame Darwish a indiqué avoir été informée du décès de 3 autres personnes sans abri dans le quartier au cours de l'hiver. Parc Extension était autrefois reconnu comme le quartier le plus abordable et le plus diversifié de Montréal. Mais, comme partout dans la ville, les loyers ont explosé, surtout depuis l'arrivée d'un nouveau campus universitaire dans le secteur en 2019, a expliqué Madame Darwish. Les propriétaires ont voulu en profiter et les loyers sont devenus incontrôlables, a-t-elle déploré. Il est très difficile de trouver un logement abordable, ce qui crée un contexte où les gens se sentent obligés d'accepter des conditions souvent très précaires et abusives. Les organisateurs de la veillée, dont Madame Darwish, réclament de meilleures ressources pour les personnes sans abri du quartier. Ils souhaitent également que le gouvernement adopte un programme visant à régulariser la situation des migrants sans papiers, comme M. Singh. C'était « La mort d'un migrant à Montréal aurait pu être évitée, selon le milieu communautaire ». Un texte de Erika Morris, paru le 8 avril 2026 sur nouveau.info.